Bonsoir. Fin ce jeudi 27 juin des épreuves de l'examen d'État, édition 2019. Débuté le lundi 24 juin sur toute l'étendue de la RDC, ces épreuves ont connu la participation de plus de 700 000 élèves finalistes des humanités secondaires sur l'ensemble du territoire national. Selon l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les taux de participation des filles à cette édition d'examen d'État connaît une croissance de 8%. Comment analyser le déroulement de cet examen d'État? C'est la question principale de l'émission de ce soir. Et nous avons dans cette émission Emery Okundji, le ministre intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP en cible. Bonsoir, monsieur le ministre Emery Okundji.
Bonsoir.
José Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Bonsoir, monsieur José Godé, Joseph Godé Kayembe.
Bonsoir.
Et Saint-Forien Filimou Kassé, il est secrétaire provincial du syndicat des écoles du Congo, Sieko Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Saint-Forien Filimou Kassé.
Bonsoir, monsieur le journaliste, c'est le syndicat des enseignants du Congo.
Merci pour cette précision. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Fin ce jeudi des épreuves de l'examen d'État édition 2019 et de la 9e édition du jury national du cycle court. Rappelons que 723 000 finalistes du secondaire répartis dans 2095 centres et près de 5000 finalistes du cycle court ont passé pendant 4 jours l'examen d'État pour le premier et le jury national pour le second. L'inspection générale de l'EPSP parle d'une augmentation de plus de 7% du nombre d'inscrits par rapport à l'année dernière. La participation des filles s'est aussi accrue de 8%. On écoute l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Michel Djamba, au micro de Billy Ivan Lutumba.
La première particularité, c'est l'accroissement des effectifs, qui est de l'ordre de 7,5% en termes d'effectifs. Le nombre de centres a augmenté de 6,6% et le nombre de filles a augmenté de 8% par rapport à la session passée. Une deuxième particularité, c'est que pour la section autrefois appelée commerciale administrative, cette année, c'est la commerciale de gestion et le secrétariat de gestion qui organisent pour la première fois leur examen d'État basé sur le système OADA. Donc, le système OADA a été introduit dans l'examen d'État à partir de cette année-ci. Pour l'ensemble du territoire national, nous avons 48 provinces éducationnelles organisées sur le territoire, 722 000, 328 000 candidats. Tandis qu'à hors frontières, Luanda et Cabinda, nous avons 579 candidats, ce qui fait un total général de 722 000, 907 candidats pour le cycle long. Tandis que pour le cycle court, nous avons un effectif global de 4 938 candidats.
Emery Okundji, vous êtes ministre intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les épreuves de l'examen d'État édition 2019 qui ont débuté lundi 24 juin ont pris fin ce jeudi. Quel est le bilan que vous dressez du déroulement de ces épreuves, monsieur le ministre?
Eh bien, je vous remercie, Guy Maté, pour la question. La session ordinaire de l'examen d'État 2019 ainsi que celle du jury national du cycle court s'est déroulée très bien à travers l'étendue du territoire national. Tout s'est passé comme prévu. On a respecté le calendrier scolaire 2018-2019. Comme vous aviez eu à le souligner, les épreuves se sont passées du lundi 24 au jeudi aujourd'hui 27 juin 2019 sans couac, sauf dans le territoire de Djougou où il y a eu panique générale le mercredi. Et dans cette panique, les enfants n'ont pas pu passer leur examen. Mais nous avons décidé de le faire passer ce vendredi, donc demain. En dehors de ces couacs de Djougou, la session ordinaire s'est passée dans de meilleures conditions à travers l'étendue du territoire national. Et donc, nous disons coup de chapeau à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui a organisé la passation de cette session ordinaire avec professionnalisme et technicité.
Oui, vous dites que ça s'est bien passé, les épreuves se sont déroulées dans des bonnes conditions. Et il était prévu que 723 000 élèves puissent participer à ces épreuves. Est-ce que tous ces élèves, les 723 000, ont effectivement participé à ces épreuves, Monsieur le ministre?
Effectivement, le Centre national d'organisation des examens d'État a enregistré 722 907 inscrits répartis dans 2095 centres pour l'examen d'État, soit une moyenne de 345 candidats par centre. Concernant les jurys nationaux du cycle court, dont l'organisation est à la 9e année, le nombre des inscrits s'élève à 4 938, disséminés dans 277 centres, soit une moyenne de 18 candidats par centre.
Oui, monsieur le ministre, il a été dit qu'aucun élève ne devait plutôt rater ces épreuves, tout simplement parce qu'il n'est pas en règle avec les différents frais exigés. Est-ce que cette décision avait été respectée? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, ce soir, nous rassurer que tous les élèves qui se sont présentés ces jours-là, donc le 24 juin dernier, aux différents centres, ont participé effectivement à ces épreuves?
Le président de la République, chef de l'État, nous a instruit pour qu'aucun enfant ne rate cette session ordinaire parce qu'il n'a pas payé les frais. À notre tour, nous avons relayé ce message pour que aucun enfant ne rate cette session. Et moi-même, le lundi, j'ai fait la ronde de certains centres de toutes les quatre provinces éducationnelles de Kinshasa. Et j'ai eu même moi-même à remettre dans la salle une fille qui, c'est pas pour des raisons de paiement de frais, mais bon, pour des raisons administratives, c'est-à-dire son nom ne se retrouvait pas sur la liste. J'ai demandé à ce qu'elle passe les épreuves et puis on va régulariser par la suite, c'est-à-dire retrouver son nom par la suite. Et donc, nous avons fait de notre mieux pour que les instructions données par le président de la République et chef de l'État soient scrupuleusement respectées.
Alors, pendant plus de deux ans, le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle se sont disputés, n'est-ce pas, la paternité de l'organisation de l'examen d'État. Et cette guéguerre entre les deux ministères ne s'est pas répercutée sur l'organisation de ces examens, n'a pas eu d'effet néfaste sur l'organisation de ces examens.
Je peux vous assurer que sous la présidence de la République, nous avions eu à régler ces différends. Vous savez, l'examen d'État est le ciment de l'unité nationale. Le diplôme d'État en est le symbole. Et donc, nous avions fourni beaucoup d'efforts pour que nous puissions, en tout cas, sceller davantage l'unité nationale. Et c'est ce qui fut fait. C'était déjà un conflit qui était derrière nous quelques mois avant même la passation de la session ordinaire.
Voilà. Et les zones qui sont concernées par la maladie d'Ebola et puis l'insécurité comme Beni, Butembo, comme Djougou, qu'est-ce qui a été fait dans ces différentes zones, monsieur le ministre?
Dans ces zones-là, ben, nous avions fait comme nous l'avons fait pour le TENAPEP et les épreuves hors session, c'est-à-dire que ces zones-là passeront une session spéciale. S'agissant, par exemple, de Beni et Otia, ces deux sous-divisions passeront leur session ordinaire du lundi 12 au jeudi 15 août 2019. Ajouté à cela, dans la province du Sud-Ubangi, il y a les territoires de Kungu qui passera aussi une session spéciale, tout simplement parce que les enfants ont été pris en otage par des conflits communautaires qui se sont surgis là-bas. Et donc, Kungu passera aussi une session ordinaire du jeudi 12 au jeudi 15 août.
Merci.
2019.
Merci, monsieur le ministre. Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Vous venez de suivre l'appréciation, n'est-ce pas, qui vient de faire le ministre de l'EPSP au sujet du déroulement de l'examen d'État édition 2019. Quelle est votre évaluation à vous par rapport à ces déroulements de ces épreuves?
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Nous sommes acteurs de la société civile qui s'intéresse à la question de l'éducation dans notre pays. Et cela depuis plus de 25 ans que nous sommes opérationnels par rapport à cette question. Je crois que le ministre n'a pas tort de dire que les choses étaient bien organisées. Et souvent, on organise bien les élections. On organise très bien la session des examens d'État. Et souvent, ça se passe bien. Souvent. Mais
et cette fois-ci, ça s'est aussi bien passé.
Ça s'est aussi bien passé parce qu'il n'y a pas eu de couac. Comme il l'a dit, parce que c'est lui l'organisateur et qui l'a dit. Mais seulement, il y a un problème parce que la même énergie qu'on utilise pour pouvoir organiser la session des examens d'État, si la même énergie serait utilisée pour améliorer la qualité de l'enseignement, ça nous ferait grand plaisir. Parce qu'on se rend compte que les examens, la préparation des examens d'État devient un objectif en soi. Mais en réalité, ça ne devrait pas être un objectif. Et l'objectif serait de sortir les enfants qui ont une bonne formation et qui ont les capacités de prendre la relève. Parce que le ministre, bientôt, il va passer. Nous tous allons passer. Mais le pays sera géré par quelle catégorie d'intellectuels quand on sait que le secteur en soi a des grands problèmes. Le problème lié à la qualité de l'enseignement et le problème lié aussi à l'accès, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui devraient aujourd'hui continuer les études mais qui ont abandonné faute de paiement ou des capacités des parents de le prendre en charge. Donc ce sont ces genres de considérations que nous pensons qui peuvent faire l'objet de la discussion plutôt que parler de l'organisation, parce que l'organisation en soi, généralement, quand l'inspectorat général s'active, sachant qu'il y a beaucoup d'argent qu'il récupère auprès des parents, et ça les active, ça les encourage à continuer à s'activer pour que l'organisation se passe correctement.
Alors, beaucoup de parents se sont plaints compte tenu de tous les frais, n'est-ce pas, qui étaient exigés pour permettre aux élèves de pouvoir participer à ces épreuves. Mais nous savons que le gouvernement a pris une décision demandant à toutes les écoles de permettre à tous les élèves qui se présenteraient ces jours-là de pouvoir participer, même s'ils ne sont pas réglés avec les frais. Est-ce que vous, au niveau de la LISADEL, vous avez pu vérifier si tous les élèves ont participé à ces examens, que personne n'a été écarté parce qu'ils n'avaient pas payé tous les frais exigés?
Nous n'avons pas fait l'audit. Ça, c'est, franchement, on n'a pas fait l'audit. On doit le savoir d'ici une ou deux semaines. On doit savoir réunir tous les éléments de preuve pour dire le contraire, parce qu'on ne peut pas fabriquer les chiffres. Le fait que le ministre l'a dit, et ça se termine aujourd'hui, il est pour nous difficile de dire si les enfants ont participé ou pas. Mais nous devons nous assurer que chacun l'enfant ne participe pas et qu'il y ait une décision, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye à sa place. Donc si le ministre disait, s'il y a eu une décision de la part du chef de l'État empêchant les autorités des écoles de ne pas percevoir l'argent prêt des enfants, c'est-à-dire que quelque part, c'est le gouvernement de la République qui devait disponibiliser des moyens pour que payer à la place des enfants qui devaient payer. Et d'ailleurs, comme vous le savez, même payer, ce sont des mauvaises pratiques qu'on doit pouvoir dénoncer, parce que l'État congolais prévoit un budget pour l'organisation des examens d'État. Tout ce qui se passe là, c'est l'enrichissement illicite de toute la chaîne, y compris le ministre avec toute l'équipe de l'administration, parce que dans cet argent que paye le parent, le ministre a sa part. Donc ça fait que aujourd'hui, ça devient une affaire. C'est une affaire. Donc, en organisation des examens d'État, c'est une affaire. Donc, tout le monde gagne, y compris le ministre et tous ceux qui sont dans le système. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Et ce que nous devons faire, et l'effort que nous devons faire, c'est d'empêcher qu'aucun enfant ne paye le frais. Parce que l'État, déjà, a prévu un budget pour ça. Et s'il faut se battre, il faut que l'État, s'il faut augmenter le budget alloué à l'organisation des examens d'État, il faut se battre pour ça, pour que tous les enfants congolais accèdent au système sans payer. Et vous allez vous remarquer que lorsque l'État congolais prendra la responsabilité d'affecter assez de moyens pour ça, et beaucoup ne vont plus s'activer, parce qu'ils savent que quand ils s'activent, ils mobilisent beaucoup les millions qu'on ne peut pas contrôler.
Voilà, Joseph Godet Kayembe, vous qui vous battez pour la promotion des droits des enfants et des élèves, certainement que vous jubilez, n'est-ce pas, lorsque vous apprenez que la participation des filles à ces épreuves a augmenté des 8% par rapport à l'année dernière.
C'est l'effort que nous faisons tous. Et d'ailleurs, nous avons participé à la campagne organisée par l'UNICEF à l'époque, tous les enfants, toutes les filles à l'école. Donc notre souci, c'est de voir que toutes les filles, parce que la fille, quand elle est instruite, comme on dit toujours, que c'est lui que une femme éduquée, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Donc si la femme est éduquée, nous espérons que le changement que nous attendons pourra avoir lieu. Et voilà pourquoi nous ne devons que nous réjouir lorsque nous apprenons que la majorité des filles sont à l'école et que parfois la proportion dépasse peut-être celle des garçons. Ça nous fait grand plaisir et nous voulons que ça puisse aussi continuer et que le parent comprenne que former, amener, envoyer une fille à l'école, c'est pour le bien de la nation.
Vous avez suivi, monsieur le ministre, Emery Okundji, qui a rappelé qu'il y a des zones où les examens ne se sont pas déroulés suite à certaines réalités, notamment l'insécurité. Et comment la LISADEL pourrait-elle s'investir afin que ses élèves puissent réellement passer les épreuves au mois d'août, comme l'a annoncé le ministre de l'EPSP?
Notre rôle, c'est de faire les plaidoyers au niveau de l'État, pour que l'État puisse jouer son rôle. Parce que ce n'est pas à nous d'organiser les examens d'État. Les examens d'État relèvent de l'autorité du pouvoir public. Donc, si le ministre a décalé, il a des raisons pour lesquelles, il a des raisons qu'il avance et qui sont valables. Et nous espérons qu'à la date convenue, il pourra pouvoir organiser.
Merci, Séphorien Philimo Kassé. Vous êtes secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, SIECO Nord Kivu. Comment vous évaluez les déroulements des épreuves de l'examen d'État au Nord Kivu où vous êtes actuellement?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. La province du Nord Kivu compte trois provinces éducationnelles, Nord Kivu 1, Nord Kivu 2, Nord Kivu 3. Nord Kivu 1 comprend les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma, tandis que Nord Kivu 2 comprend les territoires de Lubero et de Beni, avec la ville de Butembo et de Beni, et Nord Kivu 3 comprend les territoires de Walikale et de Masisi. Pour le moment, je me trouve au Nord Kivu 2. Les examens au Nord Kivu 2 se sont passés à partir du 24 juin, convenablement, le lancement a été bien fait. Il y avait, les élèves attendus étaient 19 769, mais ceux qui ont passé les examens, c'est 19 623, dont 9 868 filles et 1755 garçons pour 54 centres, comme la ville de Beni et du territoire n'ont pas pu passer les examens. Là-bas, il y a 15 centres qui n'ont pas pu faire les examens, comme l'a dit M. le ministre, qu'ils vont passer les examens incessamment. Alors, nous déplorons seulement un seul cas d'un élève de l'Institut Kimabol qui était mort suite à Ebola. Il avait présenté la petite session, mais malheureusement, il n'a pas pu accéder à la grande session et à son âme.
Voilà, vous avez relevé.
Normalement, tout était bien passé.
Voilà, vous avez relevé ces cas de maladie, cet élève qui est mort suite. Au fait qu'il avait attrapé la maladie d'Ebola. Et il est dit qu'en dépit de la situation d'insécurité des maladies au Nord Kivu, que la province éducationnelle du Nord Kivu 3 a enregistré cette année une augmentation significative du taux d'enrôlés. Et vous l'expliquez par quoi?
Oui, vous savez que ce que nous avons pu constater est que, malgré les difficultés de la vie, les parents ont pris conscience de l'importance de l'étude de leurs enfants. Vous savez, messieurs les journalistes, l'éducation est un investissement et un patrimoine sur le plan individuel, culturel, intellectuel et spirituel, et même sur le plan familial, social, national et international. Voilà pourquoi, comme l'a dit le président Isabel, que les enfants constituent l'avenir du pays. Et nous constatons que beaucoup de parents sont en train de prendre conscience que c'est à travers l'étude de leurs enfants qu'ils peuvent bien préparer leur avenir. Vous savez qu'on ne peut plus se confier à l'initiation ancestrale qui était toujours de mise à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les études qui sont devenues une sorte d'initiation pour les parents à l'égard de leurs enfants. Et comme il est toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation, vous avez constaté avec moi que le nombre de filles par rapport aux garçons a été bien sûr augmenté, et qui veut dire que les parents sont en train de prendre conscience qu'il faut que les enfants étudient. Et c'est ce qui explique cette augmentation.
Monsieur Séphorien, il est prévu, nous l'avons écouté de la part du ministre de l'EPSP, il est prévu, n'est-ce pas, une session spéciale au mois d'août prochain et pour Beni, Oicha et certaines zones, n'est-ce pas, touchées par l'insécurité. Et vous pensez que les conditions à ces moments-là seront réunies pour que ces épreuves soient bien organisées dans cette partie du pays?
Monsieur le journaliste, en tant que secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, la sécurité n'est pas de mon domaine ni de ma compétence. Si c'est le ministre qui nous garantit que les examens auront lieu, bon, nous l'attendons au moins, nous allons voir. Nous ne pouvons pas personnellement dire que les examens n'auront pas lieu. Comme il est sûr, en tant que membre du gouvernement et autorité nationale, nous sommes conscients et nous espérons que cela aura lieu comme il faut. Donc, sur ce plan-là, c'est le ministre seul qui est en mesure de nous garantir de la possibilité de la passation de ces examens.
Voilà, mais vous, en tant que syndicaliste, est-ce que vous auriez, n'est-ce pas, des conseils à donner au ministre, au gouvernement congolais, vous, en tant que syndicaliste, pour que les choses s'effacent sans problème?
Exactement, les conseils ne manquent pas. Principalement, c'est le problème de la sécurité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous avons un gouvernement, nous avons des militaires, mais l'insécurité n'arrive pas à prendre fin pendant au moins deux décennies. Parce que nous pouvons dire que depuis le gouvernement du président Sokak, Joseph Kabila, jusqu'à ce gouvernement où il y avait la passation du pouvoir, le problème de l'insécurité n'arrive pas à prendre fin, on ne comprend pas si réellement nous avons des autorités pour ça ou non. Comment expliquer? C'est comme si je dirais qu'un parent qui n'arrive pas à mettre fin à la faim ou aux difficultés de ses enfants dans la maison, nous ne savons pas comment l'importance de ses parents peut se justifier.
Merci.
Donc, nous conseillons au gouvernement de mettre fin à la sécurité, parce que vous voyez, les enfants qui sont obligés de passer les examens du justement, pendant les vacances, ces enfants vont se reposer quand.
Merci, monsieur.
Et ensuite de cela, de payer convenablement les enseignants. Parce que, vous savez, nous sommes payés jusqu'à aujourd'hui autour de 920 francs les dollars, alors que le dollar est aujourd'hui à 1700 francs les dollars. Et cet enseignant dont la vie est compromise par un coût de vie excessif, est-ce que vous êtes sûr qu'il peut donner un enseignement cohérent, même si c'est bien de faire les examens d'État. Mais nous sommes comme un cuisinier qui n'a pas tous les éléments nécessaires pour faire une bonne cuisine.
Merci, M. Sivanrien. Merci, merci, Monsieur le ministre qui représente le gouvernement, n'est-ce pas, dans cette émission et vous a entendu, vous a écouté. On espère qu'il va faire rapport, n'est-ce pas, à sa hiérarchie. Monsieur le ministre Emery Okundji, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Jean-Trésor Kandolo depuis Kisangani. Le déroulement des examens était caractérisé par des fraudes criantes comme dans d'autres années précédentes, il y a à peine 10 ans. Ceci est plus facilité par l'avènement de la communication cellulaire. Les examens sont travaillés dehors, ensuite les réponses sont envoyées aux élèves à travers les SMS. D'autres élèves dans la salle d'examen arrivent à photographier l'item qu'ils envoient par WhatsApp à leurs enseignants et les réponses leur sont retournées par le même canal. Ceci est plus l'œuvre des écoles privées pour leur propagande. Dommage que l'organisateur et les services intelligents de sécurité ne sont pas en mesure de mettre fin à cette pratique moins orthodoxe. Nous suggérons que dans le futur, le gouvernement instruise les sociétés de communication de suspendre préventivement le service de messagerie pendant les 4 jours de ces épreuves.
Monsieur le ministre Emery Okundji.
Je vous remercie encore une fois, cher ami. Avant de répondre à la question, à la préoccupation de Jean-Trésor Kandolo, laissez-moi revenir sur certaines choses que j'ai attendues, mais que je ne peux pas laisser passer de peur que l'opinion soit désinformée sur le travail de qualité abattu. Je refuse de réduire le travail abattu par des femmes et des hommes de l'EPSP en général, et singulièrement ceux de l'inspection générale de l'EPSP, à l'argent qu'ils gagneraient. Ça, c'est ne pas maîtriser même les textes qui nous régissent. Le secteur de l'EPSP, conformément à l'article 204, est une compétence exclusive de province. Et les frais sont fixés par les comités provinciaux en collaboration avec le gouverneur de province en tenant compte des réalités de chaque province. Vous savez, nous sommes dans un pays continent. Et donc, lorsque l'on dit que l'État finance l'État, mais il faut d'abord avoir les données réelles de ce qui finance l'État et de ce qui est supporté par les provinces. Et donc, mes chers amis, j'ai tenu à fixer l'opinion, l'EPSP à travers son inspection générale a abattu un travail des titans qu'il faut féliciter pour la réussite de l'organisation de la passation de la session ordinaire.
Monsieur le ministre.
Oui.
Oui, mais il y a aussi un autre aspect qui a été relevé par Monsieur Godet Kayembe en disant que dans les frais qui sont exigés par les écoles, vous, Monsieur le ministre, vous avez votre part, votre pourcentage. Est-ce que vous confirmez ces allégations?
C'est de ça que je faisais allusion de manière générale. Vous savez, ce sont des, heureusement que vous-même vous le soulignez, ce sont des allégations. Moi, je fais l'intérim de l'EPSP. Jusque-là, je ne suis pas au courant d'une telle pratique. Et donc, il faut parler des faits avec de preuves à l'appui. Moi, je ne suis pas au courant de ces allégations-là. S'agissant voilà. De mon frère qui intervient de l'Est, le co-débatteur, qui demande à ce que le gouvernement mette fin à l'insécurité. Il a raison, sauf que nous devons, nous Congolais, nous frères et sœurs qui vivons dans cette partie du territoire national, nous avons l'obligation de collaborer et aider nos forces de défense et de sécurité à atteindre leurs objectifs, à atteindre l'objectif de sécuriser les personnes et leurs biens. Je reviens à la question de Jean Trésor Kandolo. Je crois que vous aviez suivi, la Radio Capi a suivi, le dimanche, j'ai fait la ronde pour me rendre compte des préparatifs de cette session, de la passation de cette session ordinaire de l'examen d'État. Et parmi les faits dont que j'ai souligné, c'est l'apport des enfants ou les enfants, j'ai mis en garde tout enfant que l'on trouvera avec le téléphone portable lors des passations de cette session ordinaire d'examen d'État et celle du jury national. Et donc, normalement, tout enfant que l'on a trouvé avec un téléphone constituait normalement une infraction vis-à-vis de l'organisation de l'examen d'État. Et s'il y a des gens qui ont toléré cela, nous condamnons fermement. Mais jusqu'au moment où nous parlons, je n'ai pas encore à ma possession un rapport qui décrit ce que Jean Trésor Kandolo venait de décrire. Ça, c'est de un. De deux, s'il y a des gens qui se sont amusés à le faire, vous savez qu'il y a une technicité qui règne dans l'organisation de ces épreuves. Chaque étudiant a ses questions. Et donc, ne vous amusez pas à prendre les questions d'un élève ou d'une élève pour envoyer à un professeur afin qu'il réponde de manière générale et renvoyer. Mais mes chers amis, s'il y a des gens qui l'ont fait, eh bien, vous verrez le résultat.
Merci, monsieur le ministre.
C'est facile d'accuser qu'il y a eu fraude, criante et consorts, mais cela peut jouer en défaveur de ceux qui en étaient l'auteur.
Merci, monsieur le ministre. Joseph Godet Kayembe, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient, une fois de plus, de Kisangani.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoïdo, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le déroulement de ces épreuves à soi n'a pas tellement de problème. Mais ce qui fait mal et prouve que la sixième des humanités est marchande, et par les ministères de tutelle jusqu'au chef d'établissement, c'est avec les pratiques telles que la multiplication des frais à payer, on est allé plus loin à demander même l'argent pour les ETS, le remplissage des codes à 14 chiffres dans certaines écoles, le fait élevé des taux de participation à ces examens à chaque année, le taux élevé de vérification des résultats dans les réseaux par SMS, le taux élevé du journal, ajouté la multiplication des exigences pour qu'un élève qui monte à 6e s'inscrive au niveau de l'établissement.
Joseph Godet Kayembe.
Je crois que le compatriote, ou sinon le frère qui vient de Kisangani, c'est une observation qui est exacte et qui a duré plusieurs années. Le système éducatif congolais a des problèmes très sérieux. Et le système paye. Il paye aux gens qui sont censés être pris en charge par l'État. Et ces gens s'organisent pour rendre les parents malheureux. Parce que la plupart des parents, lorsqu'ils apprennent que quand l'enfant passe en sixième, ils sont sucés sérieusement. Donc tout coûte cher pour que l'enfant ait le diplôme. Même le frais des suivis, tout ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et tout c'est même le paiement de fiches, une fiche ordinaire. L'enfant va payer 10 000 francs pour une fiche. Et quand vous regardez le nombre de participants aux examens d'État, vous prenez seulement la moyenne de $30, ça vous fait une somme importante de plus de 27 millions de dollars, ne fût-ce que ce qu'on paye si nous prenons la moyenne de $30. Ça vous fait 27 millions de dollars. Mais si vous regardez l'enfant pour qu'il arrive à faire l'examen d'État, il ne paye pas moins de $100.
On sait que ça a toujours été votre lutte, n'est-ce pas? Donc, en fait, vous avez toujours poussé le gouvernement à pouvoir mettre fin à ces systèmes de prise en charge des enseignants par les parents. Mais pourquoi, à votre avis, les choses ne changent pas? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, n'est-ce pas?
Les choses ne changent pas. Parce que d'abord, c'est un système mis en place qui est soutenu et accepté par les autorités, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les ministres, tous sont dans le système. Ils savent que...
Qui sont tous les parents.
Tout le monde, qui sont des parents. Tout le monde doit gagner sur le dos de l'enfant. Tout le monde doit gagner. C'est ainsi qu'ils permettent, ils autorisent qu'on paye autant et sa part est garantie. À la fin, chacun se retrouve. C'est ça le grand problème. C'est le système qui fait qu'aujourd'hui, même dans nos universités, ça devient un problème pour étudier, il faut être sorti d'un parent qui a des moyens. Donc ça fait un problème réel. Donc le monsieur, ce qu'il dit, c'est vrai. Organiser les examens d'État, ça permet à certains de se taper des maisons, se taper des véhicules. C'est le moment où tout le monde se retrouve. Donc c'est pour l'effort que nous faisons, nous, c'est d'amener l'État. Et cela, ça fait 25 ans que nous faisons les plaidoyers. Pour que toutes ces histoires terminent, il faut que l'État congolais prennent en charge et l'organisation des examens d'État et l'accès des enfants à l'école. Vous verrez que toutes ces histoires vont terminer. Donc, tant que l'État tolère que le parent participe, tout le monde s'organise pour exploiter les parents.
Vous ne pensez pas qu'il faut essayer de changer d'approche parce que vous avez utilisé la même approche depuis plus de 20 ans et vous n'avez pas été écouté? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de repenser les choses?
Je crois que le problème qui s'est posé dans le temps, c'était la volonté politique. On a eu des chefs d'État qui n'avaient pas la volonté politique. Commençant par M. Mobutu, Kabila, aucune volonté politique. Leur problème, c'est s'enrichir pour eux-mêmes, avoir beaucoup de milliards pour eux-mêmes. Mais néanmoins, je sais qu'il me fait plaisir, c'est de voir aujourd'hui le Congo avec un nouveau leadership, le président Félix. Quand vous le regardez, il est innocent. Il a des perspectives, il a une vision claire sur ce que le Congo doit devenir. Mais c'est nous les techniciens qui devons l'aider à mettre en place le mécanisme pour régler ces problèmes. Donc lui n'est pas... il est politique. Il a une vision. Mais régler ce problème, il nous appartient, nous les techniciens, de l'aider, de lui montrer ce qu'il faut faire. Et je crois que ça va arriver. Nous allons trouver les résultats.
Merci Monsieur Stéphorien Philimou Kassé. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu Sud Kivu.
C'est Alain Soukali depuis Bukavu. L'État congolais doit en fait recycler ses services pour trouver de la place où mettre la jeunesse qui vient un peu déterminée sur tous les études humanitaires. Deuxièmement, le point qu'il faut évoquer par rapport à cela, c'est le point de la continuation des études, surtout les études supérieures avec le manque de moyens et les coûts chers des études. La chance pour les finalistes de se retrouver au poste étatique est trop minime. L'État congolais doit en fait s'arranger à trouver un moyen d'orientation ou d'encadrement des jeunes finalistes. Là, il faut sous-entendre les nouveaux diplômés, soit par améliorer les sociales pour que les moyens se fassent pour qu'ils intègrent l'université, ou soit par trouver le travail pour bien héberger sa jeunesse. Avec un diplôme d'État, on est déjà mature. Surtout avec l'approche par compétences dont l'enseignement technique est l'objet. Merci.
Monsieur Séphorien Philimou.
Et merci beaucoup pour les compatriotes de Bukavu. Ce problème, messieurs les journalistes, on en parlera toujours. Comme vous êtes en train de poser la question à mon co-débatteur, le président d'Elisabeth, le problème de notre pays, c'est plus un problème de conscience que de volonté. Je ne suis pas d'accord que c'est la volonté politique qui manque. Non, c'est la conscience, parce que nous, en Saïd, on dit que Zamir n'est pas mort. Dans Zamir, il y a une police. Nous avons des dirigeants qui nous font de belles paroles politiques, mais qui ne prennent jamais conscience des réalités auxquelles la nation est confrontée. Vous ne pouvez pas comprendre que les jeunes qui terminent les humanités, dans d'autres pays, malgré les difficultés que nous connaissons dans le fonctionnement de la politique nationale, mais ailleurs, les étudiants sont pris en charge par l'État. Nous, quand on a fait les examens, nous faisions même les examens pour avoir la bourse d'études. Mais pourquoi on n'est pas organisé ce genre de possibilités pour que les élèves qui réussissent puissent avoir la bourse d'études et permettre aux jeunes d'étudier? On parle de la création d'emplois. Mais où sont les emplois que l'État est en train de créer? Là, normalement, on voit que c'est toujours dans l'enseignement où on est tenté de trouver les dépotoirs où on jette tout le monde, même des gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires à la matière. Donc, nos jeunes qui sont en train de naître de plus en plus parce que le pays est en train d'avancer sur le plan démographique, on ne sait pas comment nos jeunes auront du travail tant que sur le monde de l'emploi, on demande toujours de l'expérience et avoir fait une expérience de 5 ans. Comment quelqu'un qui n'a jamais travaillé aura l'expérience de 5 ans? Et ceux qui sont au service, les vieux, dont la retraite n'est pas bien assurée, et aussi ne veulent pas partir parce qu'ils craignent de ne pas mourir le plus tôt possible après avoir abandonné le travail. Donc c'est un cercle vicieux. Il faudra vraiment que nos autorités, tant politiques que provinciales, puissent prendre conscience de la réalité de la jeunesse qui, si nous réclamons et nous proclamons toujours que la jeunesse, c'est le Congo de demain.
Merci.
Mais de quel demain sera-t-il fait si les jeunes ne sont pas encadrés comme il faut?
Merci.
Et l'enseignement en question n'a pas de qualité qu'il faut comme nous sommes en train de le constater. Merci.
Merci. Monsieur le ministre Emery Kundju, nous allons conclure. Il faut une prise de conscience, n'est-ce pas, de la part de tout le monde pour que les choses puissent s'améliorer, comme l'a proposé Monsieur Symphorien Philimon.
Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, place l'éducation au cœur de ses activités quinquennales. Mais vous savez, monsieur le journaliste, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La gratuité de l'enseignement, c'est le souhait, c'est constitutionnel. Cela va nous coûter plus de 2 milliards de dollars américains. Le budget de la République démocratique du Congo est de combien? Posons-nous la question. Le chef de surinstruction du président de la République, il y a eu Biboua 2. Il y a des résolutions pertinentes et nous avons les rapports préliminaires. Nous sommes en train d'examiner ces rapports pour que nous puissions nous retrouver encore une fois autour d'une table ronde afin de déterminer ce que nous allons opter en fonction de nos moyens.
Merci, monsieur le ministre. Merci, Joseph Godet-Kayembe. Votre conclusion?
Oui, je crois que la priorité des priorités dans notre République devrait être l'argent affecté à l'éducation. Si le Rwanda doit affecter 50% de ce budget à l'éducation, qu'est-ce qui doit empêcher le Congo de faire la même chose? Même si nous avons 4 milliards de dollars, il faut prendre la moitié du budget affecté à l'éducation pour que l'avenir soit assuré.
Monsieur Philimon Symphorien, votre conclusion?
Oui, la qualité de notre enseignement comme la possibilité de donner de l'emploi à nos enfants et même les budgets alloués à l'éducation est fonction de la capacité des dirigeants et non seulement des moyens.
Merci, monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes encore là?
Je suis là.
Oui. Quand est-ce qu'on va commencer à publier les résultats de ces examens?
Les résultats seront publiés. Nous faisons tout pour que ces résultats soient publiés le plus rapidement possible, c'est-à-dire moins de 10 jours après la date dont on termine. Donc après jeudi, quoi. Après
merci.
Aujourd'hui, dans les 10 jours, les résultats seront publiés.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci et bon suite au programme sur Radio Capi.